Si je vous propose justement ce test de Dragon's Dogma 2 en live, je vous ai déjà expliqué hein, maintenant les nouvelles directives sur la chaîne. Quand je termine un jeu à 100%, eh bien, je le fais, du coup, bah, je vous fais une vidéo montée, écrite, etc. Quand c'est pas le cas, j'en parle dans un café critique. Comme ce soir d'ailleurs, en plus Yannick est en live, bah moi je vais pas faire de live ce soir. En fait, l'émission actue, on enchaîne, on fait d'abord Dragon Ball Z. Maintenant, on va vous parler de Dragon's Dogma 2. Alors, je vais être totalement transparent et honnête avec vous. C'est pas juste parce que j'ai pas terminé le Dragon's Dogma 2 à 100%. En fait, je l'ai pas terminé du tout. Et si vous voulez mon avis, je pense même que je suis assez loin de la fin. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas où va se finir. Je sais pas où va m'amener ce jeu. J'en suis assez loin. En tout cas, sachez que mon aventure dans Dragon's Dogma 2 a été, a été assez paradoxale, on va dire. Puisque, on va dire contrasté plutôt. Puisque au début, et c'est ce que je vous préparerai quand je vous ferai le test à 100%, je vous mettrai des montages et tout, mes premières réactions, que j'ai envoyées d'ailleurs à Yannick, puisqu'il avait le jeu, donc je pouvais en parler avec lui librement, c'était ce jeu est une daube. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Je peux pas jouer à ça. Mais quand je parle du début, c'est au moins 7-8 heures de jeu, hein. Il dit, mais c'est pas possible. Comment on peut sortir ça en 2024? Quel est l'intérêt de ce jeu? Je ne comprenais pas. Vraiment. Et puis petit à
Précise
petit.
pourquoi t'aimes pas, enfin ou t'aimais pas au
Ouais,
début.
je vais tout dire, t'inquiète pas. Petit à petit, comment dire, j'ai adhéré à l'essence de Dragon's Dogma. J'ai adhéré à cette proposition de roleplayer son aventure, vraiment, dans cet univers. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, finalement, et je prends encore beaucoup de plaisir à jouer à Dragon's Dogma 2. Mais l'entrée, l'onboarding, hein, c'est le terme qu'on aime bien employer avec Yannick, je l'ai trouvé vraiment abrupt. Et quand je parle d'onboarding, pardon, c'est pas juste sur le jeu, c'est sur alors la licence, effectivement, mais aussi en fait tout le genre, hein, ce type de RPG vraiment. Moi j'appelle ça du hard RPG, où vraiment le but c'est de roleplayer. Enfin, récemment, je sais que j'ai. Enfin, récemment, un des derniers jeux de ce type que j'avais pu faire, c'était Elex. Et Elex, c'était la même chose en fait. Le même souci pour moi. Bref, on va y aller petit à petit et je vais essayer de structurer mes propos pour que vous compreniez un petit peu mon cheminement et pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai d'abord détesté, puis ensuite aimé la proposition de Dragon's Dogma 2. Alors déjà, Dragon's Dogma 2, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas fait le 1, comme moi, bah ne faites pas le 1, tout simplement, parce que Dragon's Dogma 2, il a des allures vraiment de reboot, de remake du premier Dragon's Dogma. Vraiment. D'ailleurs, dès le titre principal, le premier titre, l'écran de titre qui va s'afficher, il y a écrit Dragon's Dogma. Il n'y a pas écrit Dragon's Dogma 2. Alors, au niveau des deux O, de Dragon et de Gon, là, et de Dogma, vous aurez deux barres. En fait, ça fait des pupilles de dragon. Et c'est un peu là où est caché le 2. Mais en fait, de prime abord, tu regardes de loin. C'est pas Dragon's Dogma 2, c'est vraiment Dragon's Dogma. Voilà. Donc ne le faites pas. C'est pour moi déjà Dragon's Dogma, voilà, c'est un reboot. Donc si vous ne l'avez pas fait, ne le faites pas. Le premier, attaquez directement sur Dragon's Dogma 2 si c'est ce genre de jeu qui peut vous plaire. Alors déjà de base, en fait, comme dans tout bon hard RPG comme ça qui se respecte, vous commencerez dans une cellule, voilà. Dans une cellule, vous partez de zéro, c'est vraiment le mythe du héros, hein, vous partez de rien, et petit à petit, vous allez essayer de maîtriser le monde qui vous entoure. Donc, vous partez de zéro, et on vous demandera de créer un pion. Le système de pion est vraiment à la base, c'est vraiment la pièce centrale, la pièce maîtresse de la proposition Dragon's Dogma. Puisque vous allez devoir. Alors, on me dit là dans le chat que le jeu fait 91 Metacritic. Honnêtement, j'ai pas regardé. Hein. Dans ce que je vais vous dire, j'ai regardé aucune note, j'ai regardé aucun test. J'ai pas trop discuté avec d'autres testeurs pour ne pas être influencé. J'évite tout le temps ça pour que vous ayez vraiment mon ressenti à moi. Là, vous me parlez de 91 Metacritic. Je vais revenir dessus, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais pour le coup, j'en savais rien. Ce que je vous dis, c'est ça sort. C'est pas parce que je le fais en live et que j'ai pas écrit en avance que je me sers de ce qui a été publié. De toute manière, on est en live depuis tout à l'heure ensemble, vous le voyez bien. Voilà. Thibaut, t'allais dire quelque chose?
Ouais, le Metacritic, j'ai regardé, ce qui est étrange, il y a 18 critiques sur PS5, il est à 84, il y en a 15 sur PC, donc en vrai, 3 critiques près, il est à 92. Donc ça veut dire que c'est clivant, tu vois. Peut-être que le public PC est plus fidèle, ou peut-être que la partie technique, t'as joué sur quelle plateforme, toi?
Alors moi j'ai joué sur PC, peut-être que la version PC est meilleure que la version console, mais il faut savoir, alors je vais revenir hein, sur, je vous proposais une partie technique, mais la version PC techniquement, elle est vraiment pas folle hein, non plus. Je trouve que c'est très mal optimisé comme jeu. Enfin bref, on va y revenir. Je parlais du système de pions, c'est vraiment la pièce maîtresse il faut vraiment le comprendre ce système de pions, parce qu'il est absolument excellent. C'est vraiment une idée qui est géniale. Du coup, vous commencez votre jeu, on va vous demander de créer un pion, et puis un peu plus tard, on va vous demander de créer un pion principal qui va vous suivre durant toute votre aventure.
Alors, une petite erreur, Mehdi. Au début du jeu, tu crées pas un pion, tu crées l'insurgé, en fait.
Oui, mais t'es un pion, quoi.
Non, je crois que t'es pas un pion.
Bon, moi je l'ai compris comme ça.
Bon, bref, de toute façon, t'as
Ouais.
un pion principal que tu dois. Moi, j'ai fait un peu l'arrache en disant je pourrais en faire plein et tout. En fait, non, t'en as qu'un seul à faire.
Ouais, en fait, ce pion principal, il est vraiment important parce que c'est lui que du coup les autres joueurs pourront enrôler dans leur groupe. Et ce pion principal, en plus de ça, enfin, il est vraiment important parce que sans lui, en fait, vous pourrez pour aller pour partir à l'aventure, vous pourrez jusque faire un groupe de 4. Voilà. Après, vous pourrez aussi être accompagné de manière momentanée par un ou deux ou plusieurs même personnages sur une quête précise par exemple, mais votre groupe à vous que vous gérez, sur lequel vous avez par exemple accès à la gestion de l'équipement, des objets, etc., de l'inventaire, c'est un groupe de 4 maximum. Par contre, si vous n'avez pas votre pion principal avec vous, vous ne pourrez pas aller enrôler d'autres pions. Donc voilà, ce pion principal, il est vraiment, vraiment important. Voilà, moi j'ai fait un personnage plutôt à distance, soutien, comme ça, elle meurt pas souvent et elle est tout le temps là pour me soutenir. Donc voilà, c'était assez important parce que moi, mon personnage principal, que moi j'ai interprété comme étant un pion, mais voilà, c'est en gros c'est notre avatar, on va l'appeler comme ça plutôt, ou comme l'a dit Yannick, l'insurgé, puisque c'est le titre qu'on lui donne dans le jeu. Eh bien, mon insurgé, c'était en fait de base, je lui avais donné la classe voleur, et puis ensuite j'en ai fait comment dire, un tank quoi. La classe tank voilà, qui est là, qui utilise vraiment des armes lourdes, qui est très lente, mais qui fait énormément de dégâts. Et il faut savoir qu'à n'importe quel moment dans le jeu, vous pourrez changer de classe. Voilà, si une classe qui ne vous plaît pas, ou vous voulez expérimenter d'autres classes, eh bien vous pourrez changer à n'importe quel moment dans la guilde des classes, voilà, et là-bas vous pourrez changer. Et puis au fur et à mesure du jeu, vous débloquerez même de nouvelles classes qui n'étaient pas disponibles au début. Et là, en fait, c'est là où est tout l'intérêt du jeu, je trouve. C'est que moi, au début, vraiment, tout à l'heure, Thibaut me demandait pourquoi j'avais pas aimé. En fait, le jeu, il pousse au roleplay, il pousse à l'aventure. Vous n'avez pas de monture, par exemple. Quand vous partez, sortez d'une ville, vous sortez à pied. Il y a un chemin à suivre. Généralement, il n'y en a qu'un seul. Et ce chemin-là, tu le fais à pied. Et donc, souvent, quand vous devez sortir d'une ville pour aller dans une autre, vous avez un itinéraire qui peut dépasser l'heure. Mais vraiment, de voyage. C'est extrêmement long. Et de base, moi, quand j'ai commencé à jouer, je me disais, purée, mais c'est long pour rien. Et en plus de ça, pourquoi c'est long en fait? L'itinéraire est pas si long que ça. Pourquoi c'est long? Parce qu'on te force à y aller à pied. On est constamment gêné par une jauge d'endurance. En tout cas, en plus, surtout moi, sur la classe que j'avais choisie, donc classe tank, très lourd, personnage très lourd et tout, fallait que je m'arrête, mais littéralement toutes les 4 secondes pour reprendre mon souffle. Voilà, c'est vraiment roleplay, mais c'était beaucoup trop lourd à explorer, c'était vraiment pas satisfaisant, c'était vraiment pas prenant, je trouve, au début en tout cas. Et en plus de ça, l'autre point surtout qui va venir allonger énormément tous vos itinéraires, c'est que vous serez toujours constamment arrêté par des combats. Tout le temps des
Ah ouais,
combats, des
tout le
combats.
temps,
Tout
tout
le
le
temps,
temps,
tout le
tout le
temps.
temps.
C'est presque un JRPG le truc, hein.
Il y a une pénibilité en fait qui est à la fois grisante et à la fois fatigante, dans le sens que ce qui est grisant, c'est que tu vois, tu roleplay vraiment, tu te promènes sur les chemins. Je trouve que la carte, elle est assez agréable. Il y a deux grandes régions
Oui.
principales. Et qui sont les régions de... Oula, j'ai oublié leur nom. Je vais te le dire tout de suite. C'est les régions de Vermund et de Batal. Vermund, c'est un peu le monde des hommes. C'est la campagne, etc. Donc, c'est des rivières et tout. C'est assez... c'est vraiment médiéval. Tu vois, vraiment dans Heroic Fantasy médiéval classique. Et après, Batal, c'est vrai que ça fait un peu plus désertique, canyon à l'américaine, tout ça. Donc... c'est genre Grand Canyon et tout, c'est assez déroutant, mais tu vois, d'aller à un point B, c'est satisfaisant, parce que tu vois du pays, tu discutes avec les pions, et t'as des combats. Le problème, c'est que c'est long, des fois t'as trop de combats, et tu te fais des fois laminer, parce que d'un coup, t'as un griffon qui arrive, et t'es là, et tu te fais fracasser la tronche, parce que t'es pas du tout... Donc c'est à la fois satisfaisant et frustrant, donc le même trajet... il peut être extrêmement cool comme extrêmement pénible. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vraiment avoir un avis tranché sur le jeu. C'est parce que et c'est à l'image de Dragon's Dogma 2, le jeu peut être très cool par moment où il est enchanteur, et des fois il est ultra pénible d'un coup.
C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je vais vous mettre des images hein, du jeu en même temps qu'on en discute, parce que quand t'as parlé des zones, ça m'a donné envie tout de suite d'y rejouer. Alors, ce que je vais faire, pour être sûr, justement, de ne pas vous montrer, de ne pas vous spoiler, je vais commencer, après je vais vous en mettre d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, mais je vais commencer par vous mettre des images liées à... que j'avais mis sur ma preview, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment des images de la première zone, donc c'est vraiment ça, c'est mes captures à moi, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors attendez, on va plutôt passer sur la scène. Voilà, donc là vous avez vraiment mes captures de Dragon's Dogma 2. Et donc voilà, on parlait des combats. Voilà, il y a énormément de combats. On parlait des itinéraires. Des itinéraires qui sont pas toujours agréables à suivre, parce qu'on est constamment arrêté, on est obligé de les faire à pied, etc. Mais quand on part en mode exploration, quand on roleplay vraiment le truc, le système de pion, je trouve qu'il apporte aussi un vrai... je trouve qu'il apporte un vrai intérêt à... comment dire, à l'exploration. Puisque les pions que vous allez récupérer dans les failles, parce que c'est là-bas qu'on récupère les pions, en fait, ils ont pu voir des choses avant vous, dans le monde, et en fait, ils vous diront. À chaque fois, enfin, si vous marchez à côté d'une grotte cachée, par exemple, le pion va vous dire « Eh, ça, là où on est, là, il y a une grotte cachée que j'ai vue dans un autre monde, tu veux que je t'y amène ?» Et là, il suffira d'appuyer sur la flèche directionnelle haut pour lui donner la directive de « Ok, amène-moi à cet endroit, pour que je découvre moi aussi ce secret que tu as découvert ailleurs. » Donc voilà, le système de pion, je trouve, en plus d'être... déjà, moi je trouve qu'il est hyper impressionnant dans sa conception. En plus de tout ça, je trouve qu'il vient en plus, du coup, renforcer l'exploration dans le jeu. Ça, c'est cool, parce que en plus le Dragon's Dogma 2 en avait besoin de renforcer son exploration, parce que justement wow. C'est problématique de trajet, c'est problématique de combat à chaque fois, ça rend le jeu assez abrupt, assez complexe, même indigeste. Voilà, je sais pas ce que t'en penses de ça Yannick.
C'est assez particulier, je trouve. C'est assez particulier. En fait, comme je t'ai dit, moi, mon expérience, elle est constamment balancée, contrebalancée pour tous les aspects du jeu, en fait. Genre, que ce soit la création... Tu vois, le système de pion, il est génial. Vraiment, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le point fort du jeu, en fait.
Ouais.
Parce que si tu prends un pion... ou si ton pion pendant que t'as, tu vois, parce que ton pion peut être utile, ton pion, c'est les pions principaux que tu vas recruter. Tu vois, j'ai recruté le pion principal de Echo, le poteau de chez IGN et tout. Ben, et si le pion principal, il a déjà fait des quêtes, il va pouvoir t'y amener et te donner des conseils sur la quête. Pareil pour les pions que tu recrutes et etc. Donc ça, tout ça, c'est génial.
Mais est-ce que c'est pas trop fort justement de faire, par exemple, si moi je veux acheter le jeu, je joue demain, je vais venir vos deux pions. Est-ce que ça va pas, je vais pas devenir trop fort en early parce que je vais avoir.
Ah mais non, t'as un système de location des pions. Et en fait, les pions à plus haut niveau, ils vont coûter beaucoup trop cher. T'auras jamais en fait les pièces nécessaires pour louer des pions de haut niveau.
Ok.
Jamais. Il y a même pas besoin. En fait, c'est même pas les mêmes pièces que tu utilises. C'est pas les pièces de monnaie et tout. Donc non, tu peux même pas aller les farmer ailleurs. Tu vois. La, ta seule façon de farmer ces, ces pièces-là, c'est d'explorer le monde. Puisqu'à chaque fois que tu trouves une stèle, tu gagnes 30 unités de ces pièces-là. Là. C'est des C, je sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, si tu fais ça, explorer sans combattre, c'est impossible. Tu seras obligé de combattre. Et du coup, toi-même, tu vas monter en niveau. Donc, au moment où tu auras assez de pièces pour recruter des pions de haut niveau, bah toi aussi, tu seras de haut niveau. Franchement, le système de progression, il est super bien pensé. Tu peux pas le cheeser.
Ok.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai pas terminé le jeu. En fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, la levée d'embargo arrive bientôt, la deadline arrive bientôt, il va falloir, c'est pas grave si je fais pas le 100%, il va falloir au moins que je termine le jeu, et comme ça je pourrais vous donner mon avis sur le scénario, etc. Du coup, je vais avancer, et en fait, j'ai fait ça, j'ai avancé, et du coup, j'ai cassé ce rythme de progression que j'avais au début, qui était complètement naturel. En fait, je progressais juste en explorant. Là, j'avançais, j'allais dans des zones plutôt avancées, du coup, et à niveau plutôt avancé, et je me suis rendu compte que je commençais à me faire, je commençais à me faire one shot. Et c'était pas possible. Je me suis dit, non, mais je suis en train de me ruiner l'aventure, là. Donc, autant prendre son temps, c'est pas grave, vous aurez mon test final, ma critique finale à 100%, quand je l'aurai fait, parce que je compte. Et là, je trouve que c'est le témoignage aussi que le jeu est bon, parce que je compte le faire, le 100%. Il y a certains jeux où j'aurais abandonné, et d'ailleurs, pour Dragon's Dogma 2, il y a des moments où je me suis dit, non, mais c'est pas fait pour moi. Et d'ailleurs,
il y a plusieurs fois où je me suis demandé ça aussi. Ouais.
Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour moi, comme je le dis souvent, hein, de recevoir ce genre de jeu en avance, c'est à la fois un privilège, mais c'est un privilège qui m'oblige, qui nous oblige à être très, comment dire, très transparent déjà avec vous, mais aussi à vous avertir. Pour moi, Dragon's Dogma 2, c'est vraiment
pas fait pour tout le monde.
Ah ouais, c'est vraiment pas fait pour tout le monde.
Non,
j'allais juste faire une petite analogie, après je te donne la parole. J'allais juste dire, par exemple, un Elden Ring, je sais pas pourquoi je dis 2 par rapport à Dragon's Dogma 2. Un Elden Ring, j'aurais pas dit ça, tu vois. J'aurais dit oui, le jeu est complexe, mais c'est un jeu que tout le monde peut prendre en main. Dragon's Dogma 2, c'est pas le cas. C'est vraiment pour des gens qui aiment le jeu de rôle. Vraiment, pour les rôlistes, c'est
et
un bon jeu.
Au-delà des rôlistes, c'est plus pour moi les. Parce que dans le fond, c'est un action RPG avec des mécaniques de hack and slash. Vraiment, tu vois, genre c'est comme ça. T'es pas là en train de te dire bon, j'ai
ouais,
des stats. Oui,
ouais, mais l'essence
stats,
du jeu, c'est le roleplay. L'essence du jeu, c'est le roleplay.
Alors oui, c'est vivre une aventure en fait. C'est ça qui est bien, c'est que tu vis une aventure limite. Peu importe, tu vois, la trame principale, elle est intéressante. Moi, ce que j'ai noté dans mon test, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, c'était que au bout d'un moment, il y a le problème, c'est que les quêtes, elles sont mal rangées, et je ne savais plus c'était quoi la quête principale, c'était quoi les quêtes annexes. Ils auraient dû faire un petit effort là-dessus, comme sur les saves, etc. Bon, ça arrive, mais derrière, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, tant pis pour la quête principale, je vais faire des quêtes, je vais un peu explorer. Et là, en fait, j'ai commencé, j'ai eu un deuxième effet qui se coule dans le genre, ouais, c'est vraiment cool, en fait, de rendre service aux gens, ça, tu sais, t'as un côté organique dans le monde, t'as des gens, alors oui, évidemment, les gens te parlent, comme si t'étais l'élu, enfin, oui, t'es l'élu, mais tout le monde te reconnaît tout de suite, c'est à toi qui demande, et c'est pas aux soldats, alors que des fois, c'est juste, ah ouais, il y a quelqu'un qui a disparu et qui est dans une grotte à 10 mètres de là. Bon, un peu les poncifs du genre, mais, clairement, tu sens que le monde est vraiment organique, en fait, que le monde est vivant. Et surtout, pareil, moi, je vais raconter une anecdote que j'ai pas racontée dans mon test, donc c'est exclusive shit. Ici, normalement, je devais passer, world premiere, je devais passer justement la frontière entre les deux royaumes. Tu vois, donc je devais la passer.
Ah,
sauf
bah, j'ai
que,
fait la même chose. Je sais ce que tu veux dire.
Pour la passer, le problème, c'est qu'on m'a donné un laissez-passer, mais je devais être un léonin. Parce qu'il y a deux races principales, il y a les humains et les léonins, qui ont des têtes de lion, comme leur nom l'indique. Le problème, c'est que le gars à la porte, il veut rien savoir. Et moi, bon, bah, la patience, c'est pas mon fort. Donc le gars, je lui fais passer l'arme à gauche. Je le tue. Et en fait, bah, du coup, bah, la porte, elle s'ouvrait pas. Impossible de la contourner. Gags, il me sort qu'il y a une échelle, je la trouve pas à l'échelle. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible. 2 heures à trouver une échelle et tout. Puis au bout d'un moment, je vois un convoi, mais pas les convois dans lesquels tu dois payer et que tu peux passer. Je vois un convoi, genre un peu un chariot de roi, tu vois, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me foutre dedans. Et en fait, la carte, La carte, elle est la, le chariot, c'est une carte, c'est en anglais. Le chariot, il a fait que les grilles sont ouvertes. Je me suis accroupi dedans. En fait, j'ai continué ma route et j'ai pu passer d'un côté
Purée,
à
mais
l'autre comme ça.
excellent. Mais tu sais que j'ai pas du tout fait ça, moi. Pour
T'as
passer
fait comment
le...
alors?
Alors, je vais vous raconter ça. Mais alors, cette zone-là, les gars, sachez-le, la grande porte là qui s'ouvre, elle m'a fait penser, moi, elle est magnifique. Elle m'a fait penser à au mur
Elden
dans
Ring.
Game of Thrones. Tellement elle est
Ouais, il y a
balèze,
ça
la
aussi.
porte.
Ouais, y a ça aussi.
Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas réussi à trouver le laissez-passer. J'avais pas de laissez-passer. Et donc, je savais pas comment
C'est
passer.
le mec dans la taverne qui te la file, tu sais, genre qui file toutes les quêtes principales. Quand tu fais suffisamment, tu sais, quand tu vas le voir et t'as plein de trucs à faire,
Ouais,
dont
mais
le
j'ai tout
bal et
fait. Ouais,
compagnie,
mais
bah
j'ai tout fait avec lui, il m'a rien
ouais.
donné,
Bah,
moi.
il a dû te le donner, t'as pas dû faire gaffe que c'était ça.
Ah, c'est possible.
Ah ouais.
En tout cas,
Mais
moi,
t'étais pas Léonin de toute façon.
non, j'étais pas Léonin.
Donc
Mais
t'aurais eu le même problème que moi. Donc,
j'aurais mis un masque.
Mais moi j'ai pas trouvé de masque en fait.
Il me semble qu'il y a un masque. Mais dans tous les cas,
Je sais qu'il y a un masque, mais je l'ai pas trouvé. J'ai pas demandé à Gags où est-ce qu'il était, quoi.
je t'explique ce que j'ai fait. Et en plus, ça va me permettre aussi de vous dire à quel point voilà, c'est vraiment le roleplay, l'essence de ce jeu. Parce qu'au moment où j'ai fait ça, franchement, dans ma tête, il y a eu un waouh, il y a eu un déclic encore. C'était pas le premier parce que j'ai eu un premier déclic, je vais y revenir. Mais là encore, j'ai eu un déclic, je dis purée, mais c'est trop bien ce jeu parce que c'est exactement ce que j'aurais fait dans la vie. Bref, j'arrive, la porte elle s'ouvre pas, ok? Je sors de la ville, je vois un petit ruisseau, et ben je remonte le ruisseau, et en fait, j'ai fait un détour, mais gigantesque, peut-être un détour de 2 heures, hein, mais vraiment. Et j'ai réussi à passer la frontière en fait. Mais pas par la
Ah
ville.
ouais, en faisant un détour
Un détour de fou,
par le ruisseau.
j'arrive dans un canyon avec des chutes du Niagara, genre, c'était magnifique, et il y a un dragon qui m'attend en dessous. J'ai dû bien sûr le courir, hein, le rush, parce que le dragon il m'aurait fumé. Et c'était de la folie ce truc-là. Et en fait, j'ai réussi à passer dans la région de Batal sans même
C'est
avoir de
génial.
laissez-passer. Tu vois, on a eu encore une fois une expérience totalement différente.
Des expériences différentes. Et c'est ça qui est bien. Et par exemple, au bout d'un moment, moi, je me suis retrouvé donc dans la deuxième ville, la ville de.
Back Battle?
Ouais, juste, tu sais,
Ah,
on a
pas Battle, ok.
enfin, juste fais attention, on a une limitation du temps dont on peut parler sur le jeu aujourd'hui, hein.
Ouais, c'est. On
20
a.
minutes.
C'est 20
20
minutes?
minutes.
C'est pas deux
Ouais.
fois 20 minutes?
Ah, peut-être, mais moi, j'ai fait un test de 20 minutes parce que j'étais pas très clair, donc.
Ok.
Bref. Donc, je check pendant que je parle, au cas où, parce que
Vas-y,
j'ai pas
vas-y. Ouais,
mon
je vais
truc sous
regarder
les
tout de
mains.
suite.
Et voilà, tu vois ce que t'as fait là? C'est excellent. C'est toi qui as fait ça?
Oui, c'était mes captures.
Ben voilà, de balancer un tonneau enflammé sur des rochers pour noyer un ennemi. Ça, tu vois, genre, je l'avais pas vu, par exemple. Mais voilà, dans la première ville, dans la deuxième ville, je ne trouve plus ce que je dois faire. Les quêtes secondaires, elles sont dures parce que cette région, elle est vachement plus dure que la première. Du coup, je décide de revenir dans la première région. Et je dis, bah, tiens, je vais prendre un chariot qui transporte, tu sais, t'as des, c'est un système de chariots, en fait. Donc, où t'as, à l'entrée de chaque ville ou village, t'as une cloche, tu l'appelles, tu l'attends, tu payes 100 ou 200 pièces et tu peux te déplacer d'étape en étape. Et c'est toujours, c'est un peu comme une ligne de métro, tu vois. C'est-à-dire que
Ouais.
globalement, t'as la ville A, la ville B, et au milieu, t'as le village Y. Il va toujours passer par le village Y, et etc.
Mais il se fait toujours
Donc, bref.
attaquer
Et en
le
fait,
chariot.
il se fait toujours attaquer. Et le
Ça rend
problème, c'est
fou.
qu'il se faisait attaquer. Il se faisait attaquer par des ennemis trop forts pour moi. J'ai essayé d'y aller à pied, j'arrêtais pas de me faire tuer. Il y a un système de barre de vie où tu peux récupérer de la vie, mais que sur la vie, au bout d'un moment, il t'entame la barre de vie et tu peux plus récupérer autant, en fait. Tu peux
Ok.
récupérer que la barre de vie qui est grisée. J'ai comparé ça à Street Fighter un peu parce que c'est un peu le même principe dans certains cas de figure. Donc, et t'es obligé d'aller à l'hôtel pour récupérer l'intégralité de ta barre de vie, en fait. Au bout d'un moment, ça te baisse. Tu prends trop de dégâts, ça te baisse ta. Là, tu le vois à l'écran quand il court, ton perso. Bah, tu vois, t'as une barre de vie grisée et une barre de vie qui est noire, complète, qui est vide, en fait. Bah, tu peux récupérer que la grisée. Donc, elle sera
Ouais.
jamais à 100%, à moins que t'ailles dormir. Et
Et ça
donc,
coûte cher,
putain,
hein,
moi, j'ai fait.
les hôtels, les auberges.
Ouais. Mais après, t'as des planques et tout, donc.
Ah ouais, moi,
Et en fait.
ce truc-là, ça m'a changé la vie dans la capitale. C'est que au final,
Ouais, ouais, ouais.
j'ai suivi une petite quête
Pareil.
qui servait à rien. Et puis en final, la dame m'a dit, bon, bah, je te vends ma maison. Et elle m'a vendu sa maison et maintenant je peux aller dormir tranquillou. Enfin,
ah
vraiment,
ouais,
en termes
maison,
de roleplay, c'est quelque chose, quoi.
Ouais. Et donc je disais, donc c'était la croix et la bannière pour revenir à la première ville. Et j'arrive dans la première ville et genre j'entends des voix, puis au bout d'un moment il y a un dragon gigantesque et il me suivait dans la ville. Mais c'était un truc de fou en fait. Et du coup, bon, j'ai réussi à lui échapper. Et après, je suis revenu dans la ville et pas de dragon, mais genre, je me suis dit, ouais, c'est dingue en fait. C'est assez dingue. C'est dingue. Maintenant, voilà, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de quêtes annexes qui sont un peu insignifiantes, qui sont répétitives. Il y a des pics de difficulté assez embêtants. La caméra, elle est pas toujours ouf. Notamment dans certaines cavernes ou quoi, ça devient même un ennemi, la caméra en elle-même. Et derrière, ouais, je pense par exemple que Thibaut, c'est le client parfait pour ce jeu. Vraiment, Thibaut, moi, je connais ton profil, tu vas kiffer de ouf.
Alors
Vraiment, c'est un jeu que tu vas kiffer.
moi je suis d'accord avec toi, mais je dirais juste à Thibaut d'attendre un peu, et peut-être que ça va être réglé bientôt là, hein, même peut-être Day One, je dirais juste d'attendre un peu les patchs techniques. On va revenir sur la technique, parce que moi je sais que c'est le genre de truc, comme je te connais, qui peut te dégoûter du jeu, tu vois. Parce que le jeu, en fait, il a, en termes techniques sur PC, parce que j'imagine que si tu le fais, ce sera sur PC, en fait, il ne fait aucun sens. Je peux mettre le jeu en 4K, full ultra, tout, na résolution native, sans même DLSS ou quoi. Le jeu, il va tourner, bah, des fois il sera à 60 FPS, des fois il sera moins, des fois il sera 22, machin, ça, enfin, ça ne fait aucun sens. Et après, j'ai essayé, hein, j'ai mis le jeu en 720p, avec le DLSS en performance, c'est-à-dire que le jeu, il devait tourner en 480p, voire moins, tu vois. Et j'ai pas eu le gain du moindre FPS. J'ai rien, ça fait aucun sens.
C'est étonnant parce que c'est sur le RE Engine, c'est ça,
Ouais.
qui est réputé comme étant un bon moteur qui
Très bien,
l'utilise bien. Et là,
exactement.
il tourne mal et sur console et sur PC, d'après ce que vous me dites.
Alors moi, mon
Voilà.
impression, c'est que, en fait, le DLSS, il est pas actif. Parce que c'est pas possible que même le DLSS n'apporte pas le moindre gain d'FPS, tu vois. Donc moi
Ouais, je vois.
j'attends. C'est pour ça que je pense que c'est un truc qui peut être réglé facilement, tu vois. Donc j'attends de voir des patchs. Je pense que même moi, ça va me.
Question très con, tu l'as
Oui.
fait sur PC, il y a eu un patch GeForce, tu sais, du logiciel Nvidia hier avec des drivers.
Oui.
Est-ce que tu l'as relancé récemment ou pas?
Je l'ai lancé
Non.
hier. J'ai joué hier soir.
Donc, ah ouais, après le patch, du coup. Mais ça
Mais
avait rien changé.
ouais, mais je sais pas si j'ai fait le patch GeForce.
Ok.
Ouais. Je sais pas si j'ai fait le patch GeForce,
Sur
à
Play,
voir.
c'était assez pénible, la technique. Après, enfin,
Et
c'était du 30 FPS,
Ouais, c'est ça, sur
c'est
Play, c'est
stable, mais
30, quoi.
on. C'est 30, c'est stable, mais c'est vrai que. Alors, il y a certains panoramas qui sont plutôt beaux, mais c'est sûr que des fois, on a l'impression de jouer un peu à un MMO, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Genre,
Alors,
ouais, il y a
moi,
un
de
peu
ce
cet
que je vois,
effet-là.
j'ai pas trop cette impression-là. Après, je pense que. Parce que, en fait, c'est quoi dire, mais j'ai l'impression que lui et l'interface est plutôt soft. À
Alors, au
partir du
niveau,
moment où
alors
on.
là justement, par rapport à l'interface et l'UI là, j'ai vraiment un conseil à vous donner par rapport au roleplay, parce que vraiment pour moi, l'essence de ce jeu, c'est le roleplay. Je suis désolé, je répète ça, mais c'est vraiment le cas.
Oui.
Et donc moi, le conseil que je vous donnerais de faire, que je vous donnerais, et ce que j'ai fait moi, et ça m'a changé l'aventure, ça faisait partie de mon déclic. Alors, tout à l'heure, Thibaut, en début d'émission, tu m'as demandé pourquoi j'ai pas aimé le jeu de base. Bah, j'ai trouvé déjà vraiment le HUD beaucoup trop pollué. Donc, quand on me demande, on m'incite à me, comment dire, à m'investir, c'est pas investir le terme que je cherche, à me. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Mais si, là,
À
t'investir en termes de
t'investir.
temps,
Non, pas
je veux dire.
investir, genre. Quand t'es dans le truc,
Impliquer.
pas impliqué, quand t'es.
T'impliquer. C'est
Pas.
investir.
Y a un
Investir du
autre.
temps.
Bref, c'est pas grave. M'impliquer, allez.
Les musiques de Fort Boyard qui
Là,
s'emballent, là.
j'arrive pas, on va pas rester dessus 10 ans, c'est pas grave. Et en fait, quand tu me sors avec. Tu vois, là, vous voyez l'UI, là. T'as les compétences de pion, t'as tout. En fait, c'est beaucoup trop pollué. Et en fait, j'ai tout enlevé. Même la barre de vie, j'ai enlevé la map. Là, vous avez pas la map, là, dans les images que vous voyez actuellement. Mais même la map, ça rajoute
Donc toi
encore de la
t'as un
pollution.
fada aussi.
Non, mais attends, j'ai tout enlevé. Mais mon pote, je peux te dire. que l'immersion, c'est ça, voilà, qu'on me demande à m'immerger, c'est le terme que je cherchais. L'immersion, ça a tout changé. Et en plus de ça, en fait, les compétences, vous avez juste à utiliser les bumpers, donc L1, R1, avec carré, triangle, rond, croix, et c'est tout. Donc c'est toujours les mêmes, les compétences, vous les préparez avant. Donc il n'y a pas besoin de plus. La touche R2 va vous permettre d'agripper ou de grimper. Donc voilà, vous la connaissez. Et ensuite, les flèches directionnelles, eh bien, encore une fois, c'est juste pour donner des. Vous voyez en plus là en live, c'est ce qui se passe. Là, j'ai utilisé la flèche directionnelle du bas pour dire à mes pions de me suivre. Il faut juste les connaître. En fait, après, t'en as pas besoin. Et la map, c'est pareil, t'en as pas besoin parce que souvent, les objectifs, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes pions, amenez-moi. Et en fait, il y a un pion qui prend les devants et il t'appelle, il dit, viens par là. Et du coup, j'ai pas eu besoin de carte. Et sans carte, ça m'a permis, du coup, de bien plus m'immerger dans l'univers de Dragon's Dogma. Je connaissais mieux les maps. Enfin, vraiment, à un moment dans la capitale, je connaissais exactement le chemin pour aller. Enfin, tu me disais, va à la crypte, je savais exactement comment y aller. Pourquoi ? Parce que je ne dépendais plus d'une map. Ça y est. Et une fois que t'imprègnes, tu mets tout dans ton cerveau, toutes les maps, ben c'est génial. En termes d'immersion, c'est génial. Et en plus de ça, le dernier point qui aurait pu être dérangeant, parce que je vous ai dit que par rapport aux compétences, c'est bon. Par rapport à la map, c'est bon. Vous envoyez un pion et c'est réglé. Le point qui aurait pu être dérangeant, c'est la vie. Parce que tu sais pas t'en es où dans la vie. Et bah là, ce qui est bien, c'est que dès que tu arrives dans une zone de danger au niveau de ta vie, t'as un petit signal rouge qui sur tout l'écran, ça fait vraiment un déclic, ça fait boum, et tu vois, ça fait un truc rouge, et tu sais que là, t'es en santé faible. Et donc là, tu vas dans les menus, tu manges un truc, histoire de te remonter un peu la vie. Et voilà, et donc t'as même pas besoin de la jauge de santé. Et pour la jauge d'endurance, qui m'a beaucoup dérangé moi, pareil, j'en avais pas besoin pour savoir où j'en étais dans l'endurance, parce que ton personnage va se mettre à respirer de manière un peu plus intense à partir du moment où t'es fatigué. Et donc là, tu t'arrêtes et tu reprends ton souffle. Donc vraiment, à partir du moment où j'ai tout enlevé, ça a favorisé l'immersion dans le jeu, et pour moi l'immersion, c'est vraiment le plus important dans Dragon's Dogma 2. L'autre point qui a fait qu'au début, donc il y avait déjà cette partie vraiment visuelle qui m'a beaucoup dérangé au début, l'autre point, c'était les combats. Je les subissais énormément au début, je me faisais... Alors Yannick, je sais, en fait je pense que je vais vous donner le conseil de ce qu'a fait Yannick, parce que Yannick, il a choisi la classe sorcier, et en début de partie, je trouve que c'est la meilleure classe parce que ça va vous permettre d'éviter le combat frontal pour lequel on n'est pas préparé au début. On n'est vraiment pas préparé. Et donc, de pouvoir avancer, parce que Yannick, moi, il m'avait choqué quand on en discutait. Il m'a dit, moi, je suis pas mort. Ça faisait peut-être une quinzaine d'heures de jeu qu'on jouait. Il m'a dit, moi, je suis pas mort une seule fois. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Moi, je fais que de mourir. Je comprenais pas. Et en fait, moi, c'est parce que j'allais directement au contact. Et au début du jeu, on n'est vraiment pas à niveau. On maîtrise pas le gameplay. On maîtrise pas les combats. Et vraiment, ça m'a dégoûté du jeu. Par contre, à partir du moment où j'ai compris ce système de compétences, en fait, dans votre classe, plus vous allez combattre, plus vous allez gagner des points de compétences. Et avec ces points de compétences, vous pourrez ensuite... Alors, vous gagnez des points de compétences, vous gagnez aussi des talents. Avec ces talents, déjà, ce sera des buffs passifs, des buffs que vous aurez tout le temps, mais un peu en passif, quoi, tout le temps sur vous. Donc, plus de vie, des coups qui vont faire plus de mal, voilà, ce genre de talent-là. Et de l'autre côté, avec ces points de compétences, vous pourrez débloquer, du coup, des compétences que vous allez ensuite enregistrer dans les raccourcis L1 triangle, L1 carré, L1 rond, L1 croix. Et du coup, ces compétences-là, mais alors là, une fois que vous les maîtrisez, mais ça vous donne un vrai avantage sur l'adversaire, et donc un vrai avantage sur le jeu, et donc une bien meilleure appréciation du jeu. À partir du moment où j'ai commencé à jouer avec des compétences qui sont améliorées, mais c'était n'importe quoi le jeu. Je sortais, je démontais tout le monde, surtout sur le début de la map, et ça me permettait en plus d'explorer beaucoup plus tout le reste. Oui, Yannick.
Je vais devoir y aller, je suis désolé.
Vas-y, y a pas de problème.
Merci à vous. En tout cas, petite pub ce soir, si vous êtes intéressé, il y a un débat sur la pertinence ou non d'avoir des consoles mid-gen avec Emar. Donc, ça sera sur ma chaîne à 21h. Il y a mon test aussi Dragon's Dogma qui dure 20 minutes pour ceux qui veulent. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là pour Mehdi. Et on se retrouve très vite ce soir sur ma chaîne et puis très vite sur le Café Critics.
Merci Yannick d'avoir été là, ça fait plaisir, et puis on sera là ce soir, t'inquiète.
Merci beaucoup pour la force à toutes, ciao ciao.
À plus, salut. Donc voilà, le déclic que j'ai eu, c'était lié bah, du coup au système de combat que j'ai réussi à maîtriser et bah, après ouais, 7-8 heures de jeu. Et aussi l'aspect visuel qui a été beaucoup plus clean ensuite. L'autre point qui va être aussi déterminant, d'ailleurs c'était comme pour ça que j'ai comment dire, conseillé à Thibaut de patienter encore pour le moment, mais je pense que ça, c'est un truc qui peut être réglé day one, hein. Donc on va pas, à mon avis on va pas patienter longtemps, eh bien c'était la technique. La technique, elle est enfin, vraiment à la ramasse, il faut le dire, hein. C'est vraiment à la ramasse, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, t'as l'impression que ça répond à aucune règle. Voilà, t'as un jeu qui tourne à 720p de la même manière qu'en 4K. T'as un jeu qui tourne difficilement en 60 fps. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, il atteint les 60 fps et pendant 3-4 minutes dans certaines zones, c'est 60 fps constant, pas de chute. Et tu te dis, purée, mais c'est tellement confortable. Tu te dis, mais c'est comme ça qu'on aurait aimé pouvoir découvrir Dragon's Dogma 2. Thibaut, je te donne ta breaking news. Laisse-moi 2 minutes que je conclue là-dessus. Après, on repart sur les news.
C'est lié à ça.
Ah bah vas-y, dis-moi.
C'est sur IGN US, donc t'as la maison mère, à 16h, donc l'embargo, ils ont dit, Capcom est au courant des Dragon's Dogma 2 framerate issues on PC. Ils sont en train de regarder des fixes.
Ouais, genre, franchement, tu sais, t'as des jeux qui tourne mal, tu te dis ok, je comprends pourquoi ça tourne mal, c'est trop gourmand, tu peux pas faire mieux. Là en fait, ça devrait pas tourner mal.
Et là ils disent, et là c'est la réponse de Capcom, in Dragon's Dogma 2, a large amount of CPU usage allocated, bon désolé pour l'accent, pour chaque caractère, je vais le traduire en fait, pour chaque caractère, et calcule dynamiquement en fait l'impact de la présence physique dans les environnements. L'usage du CPU peut être vraiment très gros et peut affecter le framerate.
Bah... en fait,
en train d'essayer de réduire ça pour la charge GPU et du coup ça empêche pas le
la charge CPU.
Oui mais ils veulent qu'en fait, ils veulent le remettre sur le GPU du coup.
Ouais, oui voilà tout à fait, bah exactement, bah en fait tu m'enlèves l'herbe sous le pied parce que c'est exactement ce que j'allais dire et c'est ce que je disais hier. Vous vous rappelez l'émission d'hier, si je sais pas si vous étiez là, hein, sur la PS5, je parlais de justement les jeux qui sont CPU limited. Qui sont vraiment le bottleneck, c'est le processeur. Et je vous ai dit hier, parce qu'en fait, on parlait de ça parce que la PS5 Pro utilisera le même processeur que la PS5. Et je disais que y a pas beaucoup de jeux finalement qui sont CPU limited, mais il y en a un dont je vais vous parler très bientôt. Et ben je parlais de Dragon's Dogma 2 parce que justement, en fait, ça devrait pas être CPU limited, mais en fait, ils ont mis effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup de charges sur le processeur. Et c'est ce qui fait que du coup le framerate sur PC il ne fait aucun sens. Ma carte graphique elle est pas utilisée à 100% et tu vois un jeu qui monte, qui descend. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que quand tu mets quand tu t'arrives dans des zones où le jeu est capable de tourner à 60 FPS, tu te dis mais purée, si c'était tout le temps à 60 FPS, quel confort ça, en fait, ça aurait changé complètement l'expérience. Je sais, hein, souvent on fait des débats, oui la technique, non mais pas, c'est pas si important que ça. Bah franchement, jouer à Dragon's Dogma 2 avec un framerate, en fait c'est même pas une question de 30 FPS, parce que même un 30 FPS ça aurait été beaucoup mieux. C'est un framerate qui fluctue constamment, qui est jamais stable, avec un framerate 60 stable, mais purée, plus jamais vous allez dire que la technique c'est le truc du gros geek de base quoi. Non, là vraiment ça change l'expérience, littéralement. Et donc voilà, la technique, moi je dirais vraiment que ceux qui sont sur PC, eh ben, patientez, voir s'il y a un patch, forcément ça arrivera. Et ceux qui sont sur console, visiblement, c'est pas fou non plus. On a un... Alors déjà, ce sera... ne rêvez même pas à plus de 30 FPS, en tout cas pas sur cette génération, peut-être avec Trinity, avec la mid-gen. Quoique si c'est CPU limited, vu que c'est le même processeur, bah il y aura absolument aucun gain, à moins que ce soit patché. Mais voilà, moi sur console, il y a aussi le problème des frames qui sont pas synchronisés. Donc pas d'utilisation du VRR et là pour le coup, ce que disait Digital Foundry, moi j'ai pas joué au jeu sur PS5 ni sur Xbox, mais ce que disait Digital Foundry de leur preview, c'est que c'était catastrophique à ce niveau-là et que ça gâchait vraiment, enfin ça faisait des ralentissements quoi. Ça gâchait vraiment l'expérience et c'est bien dommage. Donc voilà pour la partie technique. Pour la partie, je vous ai pas parlé de l'histoire. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai pas terminé, donc j'ai pas tous les pans de l'histoire. Mais pour le coup, je trouve que en fait l'histoire elle en fait pas trop. C'est pas too much, mais elle est très bien. Elle est vraiment très. Moi, j'ai été très vite, happé par l'histoire, par tout ce qu'on devait faire. Enfin, j'ai vraiment toutes les quêtes, tous les enjeux. Ça a vite résonné en moi. J'ai vite compris ce qu'il fallait faire. Et j'étais vite impliqué dans les enjeux de Dragon's Dogma 2. Donc, en vrai, j'ai beaucoup aimé l'histoire pour le moment. À voir où ça va nous amener. Mais j'aime beaucoup ce qui est fait. En termes de DA, vraiment, si vous aimez ce genre d'héroïque fantasy là. Moi en plus de jouer à Dragon's Dogma 2, je vous le dis, c'est tellement bien fait que ça m'a donné envie de relancer tout Game of Thrones, tellement j'étais à fond. Franchement, c'est vraiment un truc qui maîtrise, hein, qui maîtrise chez Capcom. Celui qui fait Dragon's Dogma, il me semble, c'est Itsuno, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment, c'est vraiment son bébé, hein, Dragon's Dogma. Il voulait vraiment revenir sur Dragon's Dogma 2 et ce pan héroïque fantasy, il le maîtrise. Mais à la merveille, t'as des zones. Enfin, c'est pour ça que je voulais vraiment refaire du Game of Thrones. Mais t'as des zones, genre des châteaux, tu rentres à l'intérieur. T'as des grandes zones. On l'a vu dans les images que je vous montrais tout à l'heure. On l'a entreaperçu. Mais des grandes zones avec le trône, hein, des longs couloirs. Enfin, tout est grandiose, tout est grandiloquent. Je vous parlais tout à l'heure là de la fameuse porte que j'avais dû faire un détour là de 2 heures pour pouvoir passer dans la région suivante. Mais cette porte, quand j'étais en dessous. Mais franchement, ça fait quelque chose en termes de roleplay. J'avais vraiment l'impression d'être dedans et d'être dans le mur au niveau du mur de Game of Thrones. Après, voilà, t'as tout l'aspect systémique. Vous avez vu tout à l'heure où j'ai balancé un tonneau sur un genre de barrage pour faire un écoulement d'eau et gagner. Là, vous avez vu à l'instant la possibilité d'entasser des ennemis sur un pont et ensuite de briser le pont pour les tuer directement. Il faut savoir que, d'ailleurs, l'eau, on peut pas nager, hein, mais avoir un contact avec de l'eau, c'est la mort assurée dans ce jeu-là. Alors, si c'est juste de l'eau, genre les pieds niveau genou, ça passe. Si c'est une vraie étendue d'eau, il faut vraiment la fuir, parce qu'on meurt directement. Mais puisque c'est systémique, les ennemis meurent directement aussi. Donc, moi, ce que j'aimais beaucoup faire, pour me faciliter les combats, c'est juste de déstabiliser un ennemi, utiliser la touche pour agripper, là. Du coup, on l'attrape, l'ennemi, et je le balançais dans l'eau. Et en fait, je le tuais, je le one-shot comme ça, juste avec l'eau. Et ça, c'est trop bien. Le délire, la même touche, là, la grippée, là, vous voyez, le délire de monter, de grimper sur un ennemi à la Shadow de Colossus, mais ça marche même sur des griffons, sur les dragons et tout. Et les griffons, les dragons, ils s'arrêtent pas de vivre, hein, en même temps. C'est-à-dire que s'il veut fuir le combat et s'envoler et partir loin, avec toi accroché dessus, il le fait. Et c'est génial, enfin franchement, l'aspect systémique, il peut laisser naître des situations auxquelles on n'avait même pas pensé avant de se lancer dans le combat. Je pense que même les devs n'y ont même pas pensé, et je trouve que voilà, cet aspect systémique, il apporte quand même cette richesse qui est très 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 appréciable. Et en vrai, moi j'ai qu'une envie, c'est de continuer le jeu et de le boucler à 100%. Voilà, alors attention aux 20 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est pas 20 minutes où on peut parler, c'est un peu le même embargo, ouais, c'est les japonais, hein, qu'on avait sur FF7 Rebirth, où c'était 10 minutes aussi, et pourtant j'ai fait 55 minutes de test. On peut en parler, c'est juste les images qu'on montre qui ne doivent pas excéder les 20 minutes, et là en fait c'est les mêmes images que je vous mets depuis tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. J'ai joué à la manette, je trouve que le jeu est beaucoup plus confortable à la manette, voilà. Alors Daniel nous dit que c'était déjà le cas dans le 1, le côté systémique, mais totalement, c'est ce que j'ai dit, t'étais peut-être pas là au début de ce test, ce que j'ai dit c'est que justement Dragon's Dogma 2 était très clairement presque un reboot du premier Dragon's Dogma, presque un remake, voilà, donc tout ce que fait, en fait si vous, déjà je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, il me semble que le jeu s'est vendu à 1 million, mais s'il y a des gens, des fans comme Daniel dans le chat, du premier Dragon's Dogma, mais vraiment ce Dragon's Dogma 2, mais c'est GOTY potential, hein. vous inquiétez pas, ce jeu-là d'ailleurs il aura droit, parce que là je le lis aussi dans le chat, Climax qui me dit super test Mehdi, moi je suis vraiment pas satisfait de ce genre de test où je vous parle d'un jeu, je veux vraiment que ce soit plus carré que ça, donc je vais vous faire la critique, peut-être à 100%, mais en tout cas la critique montée, réalisée, etc., elle arrivera, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi je vous disais ça? Je sais que je voulais vous dire un truc à ce sujet.
Bah, tu sais que tu vas faire un test peut-être à 100% bientôt.
Ouais, ouais, mais j'ai oublié pourquoi. J'avais un. Bah, c'est pas grave.
T'as dit que c'était un GOTY potentiel. Et...
Oui, ouais, merci. Ça y est, tu m'as réactivé le truc avec le GOTY potentiel. En fait, j'ai déjà écrit, j'ai déjà rédigé la quasi-intégralité du test. J'attends de le finir maintenant. Mais en fait, ce jeu-là, typiquement, vraiment, si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous proposer la critique montée réalisée définitive sans même l'avoir terminée, parce que pour moi, en fait, la fin du jeu ne pourra rien changer à mon avis, parce que pour moi le jeu, ce Dragon's Dogma 2, vraiment il se vit dans son roleplay, et j'ai vécu mon roleplay dedans. Après peut-être qu'il y a d'autres expériences qui m'attendent, qui vont faire évoluer mon avis, mais je pense pas que c'est sur l'aspect scénario ni même l'aspect combat que mon avis va changer. Voilà. Et donc, je parlais du test que j'ai déjà pas mal rédigé. En fait, mon intro, c'était de dire, vous savez, en Chine, actuellement, c'est l'année du dragon, et j'allais dire, est-ce que ce serait l'année du dragon? Parce que, alors, c'est pas mon avis. Pour moi, ce sera pas GOTY, mais je serais vraiment pas étonné que les gens qui sont fans de ce genre de jeu, de ce genre de système, me disent qu'en fait, il y a même pas débat. C'est le GOTY, il y a pas débat. Je serais vraiment pas étonné. Je validerai complètement cet avis. C'est pas mon avis, c'est pas le mien, mais je le validerai complètement. Moi, à titre personnel, si je devais donner une note... Enfin non, ça sert à rien. Je peux pas donner, de toute manière, ça sert à rien. Je peux pas donner de note actuellement. Vous l'aurez, je veux pas... À titre indicatif, vous l'aurez dans la critique montée complète. Mais voilà, pour l'instant... dans tous les cas, franchement, c'est très positif. Voilà.
Ouais, parce que entre... Le début où tu nous dis que tu étais un peu mitigé avec ton onboarding et même Yannick qui était assez tiède en fait. Pour ça, tous les défauts que vous pointez du doigt, c'est pas ce qui lui donne du charme, mais un peu, tu vois. T'as l'impression que le jeu, il est parfaitement imparfait, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ça, en fait, moi, ça fait quoi? Ça fait 40 minutes que vous en parlez. Moi, ça me donne super envie d'y jouer.
C'est vrai.
Vraiment. De base, je suis fan de l'Heroic Fantasy, mais en fait, l'expérience... Le fait de te couper, de jouer la RPG, tu vois, c'est con à dire, mais en fait, quand c'est un jeu systémique, ça n'existe pas, les jeux systémiques parfaits. Tu vois. Quand bien même Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ils ont été polis pendant des années et des années, il y a toujours des trucs dans le systémique qui fait qu'il va y avoir des soucis où ça peut être cassé à un endroit. Donc en vrai, moi, j'en prends compte, tu vois. Mais tout le reste de ce que vous. L'expérience de jeu, ça a l'air d'être un truc à vivre. Et je pense que ça va être pareil dans le chat, mais en tout cas, ton retour, il donne très envie, tu vois. Quand bien même tu dis que c'est pas parfait, tu vois. Parce ouais. que on a l'impression que le jeu, déjà, il est différent des autres productions AAA actuelles.
Ah, franchement, c'est une proposition unique, hein.
Voilà, rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup, tu vois.
Moi, j'ai jamais joué à ce genre de truc. Enfin, vraiment, j'ai trouvé la proposition unique, quoi. Le genre de. Vraiment, le dernier RPG que j'ai fait de ce type en termes de. Voilà, d'entrée, tu sais, d'onboarding abrupt, tu vois, on te prend pas par la main, c'est on te jette dans un monde, tu te fais démonter, et alors, je compare pas ça non plus à du From Software, hein. On est quand même assez éloigné de la proposition From Software, aussi, même si sur la DA, il y a des trucs qui sont ressemblants, voilà, on est quand même assez éloigné de la proposition From Software. Moi, vraiment, Elex, en termes de DA, c'est rien à voir, pour le coup, mais en termes de RPG, où voilà, t'es lancé dans un monde, c'est ouvert, tu vas où tu veux, y a pas de quête à proprement parler. Et en vrai, tu vois, tout à l'heure Yannick disait qu'au niveau des quêtes annexes, il était pas, il les trouvait assez génériques. Enfin, moi je suis pas d'accord avec ça. Okay. Au contraire, j'ai trouvé que les quêtes annexes, elles étaient bien intégrées organiquement dans le jeu, si bien qu'à un moment donné, et lui-même l'a dit d'ailleurs. Hein, tu sais plus, ouais, tu sais plus c'est quoi dans le jeu la quête annexe ou la quête principale, et même toi, t'as même pas besoin de chercher, t'as juste envie de faire le prochain objectif qu'on va te donner. Et ça, je trouve que c'est fort.
C'est une force, tu vois, c'est comme dans The Witcher 3, tellement les quêtes annexes étaient bien écrites, en fait, t'avais l'impression que quête annexe ou quête principale, c'était du pareil au même dans le jeu, et c'est positif, tu vois, parce que tu te dis, Quand on dit annexe, dans le mot annexe, c'est un peu péjoratif de dire annexe. Ça
Ouais.
veut dire c'est pas important dans le sens. Et effectivement, si le jeu il arrive à te dire que, quand bien même tu vas sauver, j'en sais rien, moi, un petit villageois au fond d'un puits, dans les previews, ça parlait de cette quête-là surtout, et que tu as la même importance que d'aller infiltrer la ville où il y a les lions, enfin les léonins, pardon, bah tant mieux, tu vois. Au contraire, ça veut dire que le jeu, comme tu dis, dans la partie RPG, il te fait vivre une histoire. Et en fait, la quête de fond qui est, je crois, t'as le cœur arraché par un dragon, tu dois te venger ou je sais plus quoi.
Ouais.
C'est un peu, tu sais, comme le Seigneur des Anneaux. En fait, le mec doit mettre l'anneau dans le Mordor pour tuer Sauron. Mais en fait, c'est tout le voyage qui est intéressant aussi.
Exactement. Et alors, par rapport aux quêtes annexes, je vais vous donner un exemple qui va être parlant, que moi j'ai adoré. C'est le fait que ces quêtes-là, elles s'imbriquent parfaitement entre elles déjà, mais aussi avec la quête principale. Je prends un exemple. J'ai, comment dire, à un moment donné, je me baladais dans la ville principale, c'est la capitale en fait du premier royaume là, et je me baladais en fait dedans, un peu comme dans Port-Réal là, dans Game of Thrones, t'as un quartier de gueux, tu sais, où les pauvres vivent entre eux. Et je vais
Ouais.
là-bas et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit voilà, j'ai mon gamin qui est perdu, je sais pas il est où, est-ce que tu peux m'aider à le retrouver? Bon, ok, je lui dis ok, je vais t'aider. Donc c'est totalement annexe en fait, hein. Même toute cette zone, tu peux ne pas y aller en fait, de base. Et j'ai mis du temps d'ailleurs à la trouver. Et du coup j'y vais, c'est totalement annexe. T'as aucune piste. Donc faut que tu parles aux gens. Donc je parle aux gens et après on me dit voilà, il y a un gamin qui est entré dans la crypte. Je vais dans la crypte pour le retrouver. Je le retrouve et après on s'enfonce encore un peu plus dans la crypte avec le gamin. Et là on trouve une bibliothèque au fin fond d'une crypte. Ok, bon, c'est ouf, une bibliothèque. Et là, le papa là qui m'avait dit voilà, je cherche mon gamin et tout, il vient et il me dit, il me balance une phrase, tu vois, qui me fait tilter tout de suite. Il me dit bon bah peut-être qu'elle va nous servir à l'avenir. Et moi, dès qu'il dit ça, je dis ok, le jeu c'est sûr qu'il me prépare quelque chose avec cette salle. Et c'est totalement annexe, hein. Ensuite, je fais une quête principale où je dois aller sauver un magistrat qui est dans une prison, dans une geôle là d'un château. Je vais. Je le sauve et en fait je lui dis bon bah vas-y je vais te sortir de ta prison. Et le gars en fait c'était devenu un rat de laboratoire, il voulait plus voir la lumière du jour. Et il dit non moi je suis bien dans ma prison, je suis tranquille, je suis à l'abri de tout le bazar dehors et tout, je veux pas sortir. Après il me dit bon à moins que t'aies une autre solution souterraine pour moi, et s'il y a des livres dedans purée ce sera encore mieux parce que moi voilà je suis un érudit et j'aime bien lire et tout. Et ce gars-là en fait bah, je lui dis bah, j'ai la crypte. En fait, la bibliothèque que j'ai trouvée au fin fond de la crypte, si tu veux, tu peux y aller. Et il dit, mais purée, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Et il y va. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, mais purée, mais heureusement que j'ai fait cette quête annexe avant, parce que sinon, j'aurais pas eu de solution pour lui. Il serait resté croupir en prison. Et en plus de ça, là où ça s'imbrique encore mieux, c'est que ce gars, cet érudit-là, le magistrat que tu récupères en prison, lui, dans la crypte, il va lire tous ses bouquins et il va te proposer des améliorations derrière. Tu vois?
Ouais.
Grâce au. En fait, enfin. Toute cette chaîne de réactions qui part d'une quête annexe qui. En fait, c'est même pas une quête annexe, c'est un gars qui te dit hey, dès que tu rentres dans la zone, viens m'aider, j'ai mon fils. Tu peux ne même pas lui répondre. Tu peux tracer ta route, mais c'est génial. Et quand j'ai enchaîné ces parties-là, je te le dis, hein, avant le week-end, comme j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, j'étais à 7-8 heures de jeu. J'ai terminé le week-end, j'en étais à 25. J'ai fait que
Ouais,
ça.
t'as eu le moment déclic où tu t'es dit je suis à fond dans l'immersion,
C'est
je
ça.
suis à fond RP, ouais, mais ça, tu vois, pour moi, ça c'est la marque des grands jeux.
Voilà. Je suis d'accord. Et comme tu l'as dit, après, il y a sur plein d'aspects, le jeu, il est vrai, il est pas bon. Il est imparfait sur plein d'aspects. Mais pour le coup, sur ce qu'il veut te vendre, le roleplay, c'est réussi.
Écoute, moi j'ai hâte d'y jouer. Alors je pense que je vais attendre effectivement un peu plus. Que techniquement, il y a eu des patchs, mais en tout cas, ça donne envie.
Ouais, et l'autre point justement qui favorise, alors le roleplay certes, mais moi qui m'a un peu saoulé, c'est que le fast travel est très limité. Il y en a, mais c'est limité. En fait, tu dois l'utiliser grâce à une pierre. En fait, une pierre, en gros un item qui va t'aider à faire ce fast travel. Alors déjà, il faut trouver les stèles, les endroits où tu peux faire ce fast travel. Donc tu dois les trouver au préalable. Si tu les as pas, il n'y a pas de fast travel, même si tu as les pierres. Et ensuite, tu dois utiliser ces pierres pour atteindre ces pierres-là, ces stèles-là. Et les stèles, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Vraiment pas beaucoup. Pour être honnête avec vous, j'en ai trouvé que deux. Et alors, c'est pas qu'il n'y en a pas, hein, les autres, c'est juste qu'ils sont difficiles à trouver. C'est pas t'arrives dans une ville, t'as la stèle qui se débloque automatiquement, ou bien t'as la stèle qui est facilement visible. Non, franchement, je trouve qu'elles sont très bien cachées. Moi, j'ai eu du mal à les trouver. Et du coup, là, j'ai des pierres que je peux même pas utiliser parce que les stèles, bah, j'en ai pas beaucoup. Et même, t'as pas envie d'utiliser ces stèles, t'es un peu économe avec parce qu'elles coûtent très cher, il n'y en a pas beaucoup, c'est limité. Tu te dis, purée, à un moment donné dans le jeu, je vais avoir besoin de faire un trajet qui dure en fait de 3-4 heures et ce serait bien d'avoir les stèles, d'avoir la pierre, de garder la pierre pour pouvoir faire le truc. Et bon, ça c'est dommage. L'autre point qui est aussi dommage, je trouve, moi je pense que j'ai bien compris en fait qu'ils veulent, comment dire, qu'ils veulent alourdir, pas alourdir, mais ouais, mettre l'emphase sur l'aspect voyage du jeu pour favoriser justement le roleplay. Mais à un moment donné, c'est trop. Mettez-nous un petit peu de fast travel, un tout petit peu, s'il vous plaît. Là, c'est oui, il y en a un petit peu, mais là, c'est beaucoup trop limité. Ça demande beaucoup trop de choses pour pouvoir juste faire un petit voyage instantané. C'est dommage. Je pense que ça m'aurait rajouté un peu de confort, je trouve. Et là, souvent, hein, des fois, en fait, j'arrive dans des moments de la quête où je connais pas la solution. Et j'ai juste à explorer, à aller parler à des gens. Je me dis, attends, je vais aller parler dans cette ville. Et je me tape une marche de 1 heure. Mais vraiment. Juste pour arriver à la ville. À cause des combats, à cause des. Et puis souvent, tu papillonnes aussi. Hein. T'avances et puis t'as ton pion qui te dit, ah, mais attends, ici, il y a un secret. Ah, attends, ici, il y a une stèle que t'as pas vue. Et finalement, tu vas. T'es parti juste pour aller dans une ville. Au final, tu fais 12 détours. T'as plein de combats. Et du coup, oui, tu passes l'heure vite, très rapidement de voyage. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec, bah bon, j'ai trouvé ça un peu trop lourd et c'est dommage. Et l'autre point qui est trop lourd, là encore une fois, je pense que c'est aussi pour favoriser le voyage, favoriser aussi les conséquences que les actions des joueurs peuvent avoir sur ces voyages, c'est la présence d'une save unique. Vous n'aurez qu'une seule sauvegarde. C'est-à-dire que si. Et alors, qui est
C'est
qu'une
volontaire
seule.
ça?
Comment?
C'est volontaire ou du
Ouais,
coup c'est
c'est
ça?
volontaire. Clairement, c'est volontaire. C'est pour qu'en fait, tu n'aies pas la possibilité de tester des choses. Tu sais, un peu à la Baldur's Gate. Tu testes un truc. Ok, non, je veux pas ça. Je charge. Bon, je fais autre chose. Non, là, c'est vraiment roleplay au max. C'est presque une permadeath, en fait. T'as fait ce choix-là. Tu vas l'assumer, ce choix-là. Et alors, qu'il y ait ça, à la limite, je veux bien. Au contraire, moi, je suis fan de permadeath. C'est même pas que je veux bien. Je suis fan. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que dans les menus, c'est super mal fait. On a un menu, mais typiquement japonais, où tu as, quand tu vas lancer ton menu principal, tu as chargé ta sauvegarde et chargé depuis le dernier point de sauvegarde. De base, enfin, quand je lis ça, pour moi, ça veut dire la même chose. Et en fait, non, t'as une sauvegarde automatique qui se fait de manière assez récurrente, assez régulièrement. Et t'as une autre sauvegarde qui, elle, est la vraie sauvegarde. Le jeu t'incite à faire cette sauvegarde dès que tu peux parce que c'est celle-ci qui va vraiment sauver ta progression. L'autre, la sauvegarde automatique, tu peux la perdre. Et donc, ce point de sauvegarde, tu l'as à chaque fois que tu dors, que ce soit dans ta maison ou dans une auberge. Il faut que tu dormes pour que ça sauvegarde vraiment, ça ancre, ça grave dans le marbre ta progression. Et le problème, c'est que si tu charges ton point de sauvegarde, tu écrases en fait ta sauvegarde automatique. Et alors, si tu penses avant et que tu sauvegardes souvent dans des auberges, etc., eh ben c'est bien. Mais je vais vous prendre l'exemple de Gags, par exemple, qui s'est trouvé en galère. Il est arrivé niveau 20 dans le jeu et il a chargé, pareil, par inadvertance, le point de sauvegarde. Et lui, il n'allait pas dans les auberges, pas souvent. Du coup, ça a chargé une sauvegarde niveau 2. Il s'est dit, bon, bah, c'est pas la bonne sauvegarde, je retourne dans le menu principal, je recharge depuis l'autre proposition, donc recharger depuis la sauvegarde automatique, sauf que ça l'avait écrasé. Donc il a perdu, ouais, je sais pas, peut-être 15 heures de progression. Et donc ça, c'est dommage. Franchement, le système de sauvegarde, il est archaïque à ce niveau-là. Qu'on ait.
Ça, ils peuvent le changer, ou en tout cas changer la traduction, ou en tout cas prévenir que.
Ouais. Pour moi, ils doivent le faire.
En fait, c'est que vous n'étiez pas sensibilisé du coup à ça, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Et alors, oui, Daniel, il y a un truc que j'ai oublié. Il y a un autre truc, effectivement, au niveau des voy du voyage du TP, c'est que je parlais des stèles. Vous avez aussi une stèle portative que tu peux mettre un peu partout, qui va te servir de portail, en fait. Mais
Ah, mais c'est bien ça.
du coup, il faut que tu te la trimbales. Une fois que tu l'as utilisé, tu l'as essayé utilisé par exemple avec un endroit, tu te dis bon, ici je vais plus trop revenir souvent, bah tu la prends et tu la remets où elle va te servir un peu plus.
Ok.
Et pour le coup, oui, ça c'est agréable. Ça c'était
Et
bien.
attends, du coup, tu peux pas avoir ton cheval? Il n'y en a pas du tout?
Ah non, il n'y a pas de cheval, hein. En tout cas,
Ok.
au niveau où moi j'en suis, j'en ai pas vu. Je serais assez étonné qu'on ait un cheval. Mais en soi, ça peut être une possibilité, hein, imagine. Enfin, maintenant que tu me le dis, je me dis que sur le endgame, une fois que t'as tout exploré et tout, pour pouvoir traverser tout le pays, ça peut être une bonne solution en vrai, hein. Donc, en tout cas, moi, où j'en suis, j'ai pas vu de cheval. Je serais étonné qu'il y en ait un, mais pourquoi pas? Ça pourrait être game changer en vrai.
Et il y aura des DLC, tu penses?
Je pense, ouais. Parce que je pense que le jeu, et c'est bien, c'est une bonne chose, mais je pense que le jeu il bénéficie quand même de très bons retours critiques comparé au premier Dragon's Dogma. Et je pense que s'ils veulent vraiment ancrer un peu plus la licence dans le paysage vidéoludique, Capcom, ils doivent faire plus de choses avec ce jeu-là.
Mais même. En regardant le même extrait de gameplay en boucle là, depuis tout à l'heure,
Ouais.
on se rend compte que c'est un budget triple A. Enfin, rien qu'en faisant un jeu et en donnant la validation de produire un tel jeu, Capcom en quelque sorte prend un risque dans le sens qu'ils se disent on croit en ce projet, tu vois. Donc.
Ouais, c'est un très gros budget. Je suis content que tu m'en parles parce que j'allais oublier. Il y a un truc moi qui m'a un peu déçu dans DD2, c'est le bestiaire. Pas la qualité, parce que je trouve qu'en termes de qualité, il est excellent, au contraire. Mais en quantité. Il n'y a pas beaucoup de variété en fait d'ennemis, je trouve. C'est
Ok.
souvent les mêmes, mais après ils sont extrêmement bien animés. Il y en a qui proposent un challenge qui va. Voilà, va falloir être. Falloir réfléchir pour le réussir, ce challenge. Enfin, voilà. Le bestiaire est de très grande qualité, mais en termes de qualité, de quantité, pardon, de variété, je trouve que c'est souvent les mêmes. Et en plus, il y a énormément de combats, donc tu revois à chaque fois les mêmes gobelins, les mêmes loups, les mêmes ces genres d'alligators bizarres là. Enfin, c'est toujours les mêmes. Et après, alors, ça varie d'un coup beaucoup quand tu changes de royaume, ce qui est logique en fait. C'est un autre biome, donc t'as de nouveaux ennemis, nouveaux bestiaires. Mais là encore, en fait, tu t'habitues vite à ce qui arrive. Donc ça, c'est dommage.
Ok.
Voilà.
Et tu parlais de retour critique, ça s'est un peu stabilisé sur Metacritic avec 49 critiques, 5, on est à 87.
Ce
Donc on
qui est
est
quand
sur
même excellent.
voilà, une très bonne note.
Ah ouais, c'est excellent. Et sur PC, on a 90 encore avec 28 reviews.
Moi j'ai 31 critiques et 90 aussi.
Ah, peut-être que ouais, ça a dû arriver en plus.
Même
Mais c'est ouf.
33. 33 critiques. De toute
Ouais,
façon, on verra,
33.
ça va se stabiliser, mais en tout cas, on est
C'est
sur un très bon
exceptionnel,
jeu.
90.
Ouais.
Ouais.
Surtout vu la proposition, du coup, parce que c'est clivant quand même comme jeu.
Ah, c'est clair. Attention, c'est pas pour tout le monde. Mais alors, honnêtement, je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, je m'attendais pas à des retours aussi positifs. Vraiment, je m'attendais pas à un 90 méta. Je pensais justement que ça allait pas plaire unanimement à la presse, tu vois.
Ouais.
Et
Après,
pourtant.
tu vois, mais il bénéficie aussi du fait que c'est un jeu de niche. Tu vois, on parlait dans le chat, ça parlait de 7 millions de ventes pour le premier. Il y en a beaucoup qui ont été faites, je pense, à plus bas prix. Il y a eu plein de coups de cœur des joueurs sur le tard, tu vois.
Dragon's Dogma a fait 7 millions de ventes?
Ouais, après, il est à 3 ou 4 balles sur Steam depuis des années en promo.
C'est énorme. Je pensais qu'on était à 1 million.
En tout cas,
Parce
c'est ce
qu'on
que.
rappelle la.
J'ai pas vérifié, c'est ce qui se disait dans le chat. Hein.
Parce qu'on rappelle la tragédie de Dragon's Dogma, c'est qu'il est sorti quelques jours avant Skyrim. Et du coup, il s'est fait démonter.
7, oui, en septembre 2023, il s'est vendu à 7,9 millions d'unités.
Mais c'est génial!
En comptant le jeu original et la version Dark Horizon. Donc
Ouais, mais franchement, c'est génial!
le...
C'est d'excellents chiffres, je trouve, hein, pour le type de
Donc
jeu
tu
que
vois,
c'est.
on verra demain parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal attendu dans la commune PC, plus que console. Alors après, c'est peut-être mon écosystème qui est biaisé là-dessus. Enfin,
Non, moi je suis
mon.
d'accord avec toi.
Mais faut voir s'il fait combien il va faire, tu vois. S'il fait 80K de joueurs sur Steam, bon, peut-être que c'est pas le succès attendu. Tu vois, je pense qu'il s'attendait au moins à 150, 200.
Moi, je pense que ça va être un gigantesque succès sur Steam, Thibaut. Et en plus de ça, c'est le type de jeu, un peu comme Palworld, où tu peux en fait, comment dire, y jouer pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Tu vois? Donc
Ouais.
c'est un succès, enfin c'est un peu comme Baldur's Gate 3. C'est le type de jeu que en fait, tu vas pas voir descendre très rapidement sur Steam. Tu vois? Ça va se
Mais
maintenir un moment.
c'est vrai, et c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu. Enfin, tu sais, il y a des types de jeux où tu sais qu'ils peuvent cartonner sur PC. Celui-là en fait partie, tu vois. C'est comme les Monster Hunter, comme tu parlais de Baldur's Gate, même tu vois, Starfield. On sait que c'est des jeux qui marchent bien globalement sur PC. Enfin,
Clairement. Et
les.
puis t'as le système de pions qui va venir encore plus soutenir ce délire de communauté. Puisque en plus de ça, au niveau des pions, vous aurez dans les failles en fait les classements mensuels et tout. Et tu verras en fait les pions les plus utilisés, les plus performants du mois, de la semaine, etc. Donc ça peut aussi pousser, tu sais, les communautés, je pense à Twitch et tout. Voire, en plus, d'ailleurs, ils l'ont préparé en amont, ça, en mettant même des pions officiels à l'effigie de certains créateurs de contenu, certains médias.
Ouais, et
Donc
là
ils veulent pousser le truc, quoi.
je te pardonnerai pas de ne pas avoir rempli les papiers.
Ah ouais, de ouf, j'aurais. Mais tu retrouves quand même mon pion là.
Ouais, mais s'il faut que je l'achète, il va me coûter ultra cher. Alors que là, les créateurs de contenu, c'est genre tu commences le jeu, tu peux avoir le pion de genre du grenier avec toi, non?
Ah ouais, je
C'est
sais pas, j'avais
question,
pas testé.
je sais pas, je pose la question.
J'avoue que j'avais pas testé. Mais alors dans ce cas-là, si tu fais ça, le niveau doit parce que sinon tu casses le jeu. Il faudrait que le niveau te suive. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je pense que c'est ça, le niveau il va être scalé.
Ouais.
Faut voir.
Daniel nous dit tu en as pour plusieurs centaines d'heures. Ouais, bah c'est ce dont je me suis rendu compte. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à la conclusion que je ferais ce test sans l'avoir terminé. Parce que, en fait, j'aurais pu le rush et j'ai vraiment pas envie de me gâcher le jeu. Et c'est ce que j'ai commencé à me faire. Là, si je charge ma sauvegarde, vous allez voir. Enfin, je peux pas le faire, mais je peux le faire à partir de demain. Je suis du coup, dans le deuxième royaume. Et en fait, je suis pas à niveau. Je suis pas à niveau. Le moindre mob, il me tue en deux coups. Et donc,
Ouais.
c'est pas possible. Voilà pour le gros segment Dragon's Dogma 2. Je vous reprends tranquillou. Est-ce